Vous écoutez FM 93, ce midi. La voix est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Bonjour Luc, comment vas-tu?
Pas mal du tout, et toi?
Ça va très bien. Vas-tu venir voir Corey Hart sur les plaines? On vient d'apprendre ça, là.
Ben, sais-tu, c'est tentant. C'est quelle date?
C'est le 4 juillet, un jeudi.
Il paraît, moi, j'ai pas été, là, mais on me dit que le spectacle à Montréal était assez extraordinaire.
Hein. J'ai entendu de très bons échos, moi aussi.
Ben, j'ai lu, on me dit que c'était vraiment, enfin, les critiques sont vraiment élogieuses. Et j'ai vu des gens qui sont allés qui ont dit « Wow! » Il paraît qu'il est comme il y a 57 ans, mais qu'il est pareil comme quand il en avait 27-28. Alors, je pense que ça va être tout un show, là.
Oui, je pense qu'il va y avoir un intérêt pour ça sur les plaines. Comme disait Jonathan tantôt, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas prêts à payer 50-60$ pour aller le voir en amphithéâtre, mais quand t'as ta passe du festival d'été, c'est all you can eat, là. Fait que ils vont sûrement y aller.
Oui, et puis les gens oublient Corey Hart, même s'il est presque disparu du radar pendant longtemps, il était loin d'être. En tout cas, il était pas loin du show business. Il écrivait pour d'autres. Il écrivait des chansons pour Céline Dion, pour d'autres artistes. Il était producteur. Enfin, moi, j'aimerais bien aller le voir. Ça se peut que j'aille te voir, Jean-François.
Excellent. Bienvenue. On ira prendre un breuvage. On est dû là, pour aller sur Grande Allée ensemble, Luc. D'ailleurs, je voulais aussi t'offrir mes sympathies pour Eric Carlson. Bob McKenzie dit qu'il va signer 8 ans, 11 millions par année à San Jose. Donc, ce sera pas avec le Canadien, Luc.
Alors, étant donné que j'avais dit que ce serait avec le Canadien, je vais apprendre à me la fermer. Hein. Il va falloir que j'apprenne à me la fermer, là. Y a-t-il quelque chose que j'ai dit dans le sport qui a marché cette année, moi, là?
Non, mais je pense pas. Je cherche dans mon registre, là.
Ma moyenne est faible, mais ce que j'aime, par contre, c'est que je pense que je suis loin d'être le seul, hein? On s'est pas mal trompé cette année.
Puis il y en a pour qui c'est l'occupation principale de commenter le sport et qui se plantent eux aussi. Donc, t'as pas besoin de te sentir.
Alors, welcome to the group, comme on dit.
Luc, je voulais qu'on fasse un petit tour à l'international aujourd'hui. D'abord, un retour sur Hong Kong dont on a parlé la semaine dernière. Il y a eu une autre manifestation monstre hier dans les rues là-bas. Ça faisait suite à un événement mercredi. Il y a eu des violences dans les rues, 80 blessés. Donc, ça se poursuit un peu cette espèce de grogne-là autour d'un projet de loi sur les extraditions vers la Chine. Où est-ce qu'on en est rendu au juste?
Ben, effectivement, la présidente du conseil exécutif de Hong Kong a retiré le projet de loi et a adressé des excuses à la population. Maintenant, elle l'a fait avant la manifestation dont tu parles hier. Mm-hmm. Alors, les gens disent, mais comment c'est... Elle a retiré le projet de loi, elle s'est excusée. Qu'est-ce que les gens font là? Il faut comprendre, c'est quoi la situation de Hong Kong? Hong Kong a été pendant 150 ans une colonie britannique. En fait, c'était le dernier joyau de la couronne impériale britannique. Et sous Margaret Thatcher et Deng Xiaoping en Chine dans les années 80, ils ont décidé de négocier. C'est que je veux pas aller trop dans les technicalités, mais Hong Kong était une colonie avec un statut un peu particulier, à savoir que c'était comme un bail emphytéotique, c'est-à-dire 99 ans, puis après ça expirait. Oui. Alors, les Britanniques ont manifesté l'intention de garder leur souveraineté là. Les Chinois ont dit, il n'y en est pas question. Alors, il y a eu une longue négociation qui a abouti en 1997 à ce qu'on a appelé la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et en vertu de l'entente, la Chine assumait les pleins pouvoirs dans le domaine de la défense, les pleins pouvoirs dans le domaine des affaires étrangères, mais aucun pouvoir dans le domaine de la gestion interne de Hong Kong, et on appelait ça un pays, deux systèmes. Et ce qui est arrivé dans la pratique, c'est que toutes les institutions qui dirigent Hong Kong et qui sont supposées justement d'être indépendantes de Pékin, mm-hmm. ont été plus ou moins manipulées par la Chine centrale, qui a réussi à placer ses gens un peu partout dans l'appareil. Et Hong Kong est de plus en plus sous le joug de la Chine populaire. Maintenant, jusqu'où ils sont prêts à aller, c'est ça qui est la grande question, parce que le fin fond de l'histoire, c'est pourquoi ont-ils accepté face à l'Angleterre cette idée d'un pays, deux systèmes? C'est pas parce que l'Angleterre jouissait d'un grand rapport de force avec eux. Pas du tout, du tout, du tout. C'était pas le cas du tout. Les Chinois auraient pu faire un doigt d'honneur à la Grande-Bretagne, puis ça aurait fini là, puis c'est tout. C'est parce qu'ils voulaient avoir, au sein de leur pays, une ville de transition, une ville capitaliste par où transitent les capitaux, par où transitent les transactions, et tout ça faisait leur affaire. C'est comme si les États-Unis s'étaient construit une petite Suisse à côté, là, tu comprends? C'est une île, C'est juste là, c'est à peu près à 100 km d'une des plus grandes villes de Chine, Canton. Et maintenant, Hong Kong va-t-elle survivre jusqu'en 2047, comme le prévoit l'entente, sous sa forme actuelle? C'est de moins en moins sûr parce que ce que ça vient souligner, c'est la nouvelle agressivité du régime chinois. Ils sont devenus... pendant longtemps, il y avait cette croissance incroyable, 10-12% par année, puis l'économie chinoise n'arrêtait pas, puis bon. Puis à un moment donné, et ça semblait se faire de façon plutôt pacifique. Et puis à un moment donné, ils ont commencé à se péter les bretelles un peu. Alors ça a déclenché d'abord, il y avait un déficit commercial avec les États-Unis qui était tellement épouvantable que là-dessus... Trump avait en partie raison. Pas sûr que ses méthodes sont les bonnes, là, mais tu peux pas vider l'économie d'un autre pays en jouant sur les taux de change et ainsi de suite. Alors là, ils sont devenus hégémoniques. Ils ont le réflexe des superpuissances. Ils se bâtissent une armée puissante. Et Hong Kong, ils font passer le message au peuple d'Hong Kong. Vous aimez ça, là? Vous allez obéir, OK?
C'est ça. J'ai l'impression, quand je les vois agir, le gouvernement chinois, c'est qu'ils ont peur que s'ils donnent un pouce à la population d'Hong Kong, ils vont vouloir un pied. Puis comme ils sont un peu en train de s'ingérer dans chacune des institutions d'Hong Kong, ils ont l'impression qu'ils ne veulent pas perdre cette mainmise-là qu'ils sont allés chercher au cours des dernières années.
Je souhaite vivement que ça va s'arrêter où ça en est à l'heure actuelle, parce que si jamais la Chine décidait que « Just too bad, c'est moi qui mène à Hong Kong. » Il n'y a rien qu'on peut faire. Hong Kong n'a pas d'armée. Il n'y a pas personne dans le monde entier qui va aller déployer une armée pour protéger Hong Kong. C'est même pas logistiquement possible. Qu'est-ce que tu veux? Hong Kong, il y a une partie qui est une île, puis il y a une partie qui est sur le continent. C'est comme une extension du territoire chinois. C'est en fait le territoire chinois. Hong Kong est une ville chinoise capitaliste.
Oh oui. Donc, au-delà des manifestations, il n'y a pas grand-chose qui peut venir les sortir de là, la population d'Hong Kong.
Ah, des questions réputationnelles, mais d'après ce qu'on voit avec Xi Jinping, il s'en balance totalement.
C'est pas une préoccupation de tous les moments. Je voulais également revenir sur ce qui se passe en mer d'Oman. C'est arrivé jeudi dernier. Deux pétroliers ont été la cible d'une attaque d'origine indéterminée pour l'instant. Il n'y a personne qui a revendiqué un pétrolier norvégien, un pétrolier japonais. Et c'était une région, la mer d'Oman, qui était déjà sous tension. Là, peux-tu nous expliquer un peu ce qui se passe dans ce coin-là?
Ben, il se trouve que là où les pétroliers ont été attaqués, c'est dans ce qu'on appelle le détroit d'Ormuz, qui est une prolongation de la mer d'Oman, qui est elle-même une prolongation du golfe Persique. Un tiers de tout le pétrole transporté par bateau au monde passe dans le golfe d'Ormuz. Si on veut être encore plus précis, 20% de toute la consommation pétrolière du monde passe par le détroit d'Ormuz. Et là, évidemment, le détroit d'Ormuz, il y a l'Iran, il y a l'Irak, on est en plein dans la zone là où les grands opposants se font face. Et qu'est-ce qu'on voit devant nous? Moi, je ne crois pas du tout l'histoire des Américains qui veut que ce sont les Iraniens qui ont fait ça. Oublie pas là que au moment où des engins explosifs ont atteint ces pétroliers-là, il y avait une visite officielle à Téhéran, c'était la visite officielle du premier ministre du Japon, un des principaux clients de l'Iran. Un des pétroliers visés était japonais. Ouais. Ça a l'air d'un coup organisé avec le gars des vues, là, tu sais. Parce que, d'une part, le type d'attaque lui-même, les Américains ont parlé de mines. Mais ce qu'on peut voir et ce qu'on entend de la part, entre autres, des marins qui étaient à bord du bateau japonais, c'est que c'était des drones, des tout petits drones. Okay. Ils l'ont vu arriver, puis bang, ça a sauté. C'était bien calculé, c'est pas un drone, c'était pas un niveau d'explosif qui pouvait faire couler le bateau. C'était simplement une peur bleue avec tout ce qui vient avec. Et là, immédiatement, les États-Unis pointent le doigt vers l'Iran. L'Arabie Saoudite pointe le doigt vers l'Iran. L'Allemagne dit « Oh, oh, il y a rien de convaincant dans ce que les Américains nous ont montré. » Les autres pays du monde, au fond, se la ferment. Parce que c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que nous assistons présentement, depuis quelques années, à une guerre au départ larvée, puis maintenant de plus en plus ouverte, qui oppose le leader du monde sunnite, qui est devenu l'Arabie Saoudite, alors que c'était le rôle de l'Égypte autrefois, au leader du monde chiite, c'est-à-dire là où se trouve la majeure partie des chiites, l'autre composante de la religion musulmane, l'Iran. Et à la tête de l'Arabie Saoudite, t'as le fameux Mohamed Ben Salman, FPS, celui qui a ordonné qu'on exécute le journaliste Khashoggi puis qu'on le découpe avec une scie, un espèce de va-t-en-guerre un peu capoté qui mène une guerre incroyable au Yémen parce qu'il y a une minorité chiite qui est là. Alors moi, je serais plutôt tenté de dire que c'est un coup monté soit par l'Arabie saoudite, et là, je vais m'avancer un pas plus loin, là, en sachant que je ne suis pas en territoire totalement solide, mais qui serait plausible, soit par des commandos ou des experts israéliens. Pourquoi? Parce qu'Israël, qui voyait l'Arabie saoudite comme un ennemi juré, maintenant les voit comme ce qu'on appelle un allié objectif. L'Arabie saoudite est contre l'Iran. Israël a une peur bleue de l'Iran. Pourquoi Israël
a-t-elle... Les ennemis sont mes amis, là.
Voilà. Et la peur bleue vient d'où? C'est que l'Iran, avant la signature de l'accord nucléaire, que M. Trump a jeté à la poubelle, peu importe, l'Iran était sur le point d'avoir la bombe atomique. Mais vraiment, là, il était sur le point de fabriquer les ogives. Là. Ouais. Et bon, ça s'est arrêté là, mais la science derrière ça, la technologie derrière ça, est encore là, là. Et là, les Israéliens ont une peur bleue, parce que qui possède une arme atomique dans la région? Israël, on dit qu'ils possèdent 100 ogives nucléaires. Ils n'ont jamais voulu le reconnaître, mais ils essaient même plus de le démentir. Okay. Ils veulent pas avoir d'autres pays autour qu'ils considèrent comme des ennemis avec une bombe nucléaire. Et évidemment, les États-Unis aiment beaucoup Mohammed Ben Salman. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, il a commandé jusqu'à 130 milliards de dollars d'armement. Comment tu penses que on explique la prospérité soudaine aux États-Unis? Écoute, la machine à armement est à roule à plein régime. Alors les États-Unis, ils disent, mais là, c'est notre chum, ça, là. Mm-hmm. Puis lui, ce qu'il veut, Mohammed Ben Salman, il veut que les Américains tombent dans le panneau puis rentrent dans une guerre avec l'Iran. Et eux autres, comprends-tu, l'Arabie saoudite, l'air de rien, il y aurait en sous-main le soutien des Israéliens, puis de façon ouverte avec... des technologies de télécommunication, de surveillance aérienne, de satellites espions, de tout ce que tu veux. Les États-Unis, parce que l'Arabie saoudite, c'est un pays qui a à peu près 30 millions d'habitants. L'Iran, c'est un pays de 85 millions d'habitants, auxquels il faut en ajouter 20 millions qui sont juste sur la frontière avec l'Irak. Mmh. Alors, c'est un pays, finalement, qui contrôle plus de 100 millions de populations. Alors, si ce n'est que par le nombre, l'Arabie saoudite n'est pas en mesure de gagner une guerre contre l'Iran. Et l'Iran a des alliés solides. L'Iran est allié avec la Russie, puis avec la Chine, qui, dans le cas de la Chine, parce que c'est un de ses grands clients. Alors, aller faire sauter un baril de poudre au-dessus de cette région du monde... C'est à l'heure actuelle, à mon avis, ce qui se passe de plus dangereux sur la planète Terre.
Donc là, il y a un premier domino qui vient de tomber. Il faut voir si les autres vont tomber aussi. Puis est-ce que je comprends que c'est l'attitude des Américains qui va un peu déterminer la suite des choses?
Ah, ça, je suis pas convaincu de ça. Les Américains, d'une part, t'as Trump, je pense que s'il y a une chose qu'il a dite dès le départ dans son entrée en politique et pour laquelle on peut dire qu'il a été constant, c'est qu'il n'est pas pour les aventures guerrières à l'étranger. Ça coûte trop cher et ça donne rien, dit-il. Ouais. Alors, à l'heure actuelle, je soupçonne Trump de jouer la game. Mais il y a autour de lui Bolton, qui est un va-t-en-guerre maniaque. T'as aussi Mike Pompeo, qui est pas loin de la même catégorie. Alors, le problème avec ces affaires-là, c'est, disons que c'est toute une mise en scène, ce que je pense que c'est. Il y a ce qu'on appelle la théorie de l'escalade. C'est qu'à un moment donné, il y a une erreur qui se produit dans la mise en scène, puis il y en a un qui réagit plus fort que l'autre, puis l'autre, c'est le juste retour, bang, le retaliation shot, comme on dit. Puis là, c'est la guerre qui décolle, et ça, c'est extrêmement inquiétant.
Merci pour la mise en situation, Luc. On verra si la situation évolue au cours des prochains jours. On se parle demain?